Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique.
Le livre de l'Exode tient une place très importante dans l'Ancien Testament et il nous aide à mieux comprendre l'œuvre de Jésus-Christ et la raison de la foi chrétienne.
Nous allons reprendre notre étude sur le livre de l'Exode vers la fin du chapitre 13. Comme nous avons fait une pause depuis la série consacrée au chapitre précédent, Claude va commencer en nous parlant du contexte de ce livre et de l'histoire qui nous révèle jusqu'au chapitre 13. Claude, bonjour et merci d'être de retour parmi nous.
Merci Yann et bonjour à tous. Au début du livre de l'Exode, le peuple de Dieu, appelé aussi Israël, vit dans le pays d'Égypte, où il est malheureux car il est soumis à l'esclavage et il travaille durement sur les chantiers de construction du Pharaon. Au chapitre 13, ce peuple commence un long voyage à pied qui doit le conduire d'Égypte jusqu'au pays de Canaan, le pays que Dieu avait promis à leurs ancêtres. En fait, Dieu vient d'accorder à ce peuple une délivrance extraordinaire, car suite à une série de fléaux redoutables qui se sont abattus sur l'Égypte, le Pharaon a enfin fini par laisser partir ses esclaves. En effet, lors du dernier fléau, l'ange de la mort est passé dans chaque foyer égyptien pour prendre le premier-né. Le peuple d'Israël a été épargné de ce fléau grâce à un sacrifice. Tout le pays d'Égypte a été plongé dans le deuil. Le pharaon avait longtemps résisté à la volonté de Dieu, mais vers la fin de cette nuit terrible, il a convoqué Moïse pour enfin donner au peuple de Dieu la permission de quitter son pays. Le peuple de Dieu a longtemps souffert en Égypte, mais maintenant, le voilà libre. Dieu lui a prouvé sa fidélité, car il a tenu sa parole et il a réalisé envers lui ses promesses. Dieu a prouvé qu'il était réellement le Tout-Puissant, car non seulement il a triomphé du Pharaon, mais il a aussi prouvé que les soi-disant dieux égyptiens étaient faibles et qu'il ne valait rien.
Dieu a délivré son peuple de l'esclavage en Égypte, mais qu'allait-il se passer par la suite? Nous le découvrirons lors de cette nouvelle série d'émissions consacrée à l'étude du livre de l'Exode, à travers les chapitres 13 à 15. Sandra va tout de suite nous lire les versets 17 à 22 du chapitre 13 du livre de l'Exode.
Quand le Pharaon eut laissé partir le peuple d'Israël, Dieu ne les conduisit pas par la route du pays des Philistins, bien qu'elle fût la plus directe, car il s'était dit « S'ils devaient affronter des combats, ils pourraient regretter leur départ et retourner en Égypte. » Il leur fit donc faire un détour par le chemin du désert du côté de la mer des Roseaux. Les Israélites quittèrent l'Égypte bien équipés. Moïse emporta les ossements de Joseph, puisque celui-ci en avait solennellement adjuré les Israélites en leur disant « Dieu ne manquera pas d'intervenir en votre faveur. Alors, vous emporterez mes ossements avec vous. » Les Israélites partirent de Soukhot et campèrent à Étham, en bordure du désert. L'Éternel marchait à leur tête, le jour dans une colonne de nuée pour leur montrer le chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils puissent marcher de jour et de nuit. La colonne de nuée, ou la colonne de feu, se trouvait en permanence à la tête du peuple.
Merci. À présent, Claude va nous aider à mieux comprendre ce récit.
Oui, merci Yann. Chers amis, alors que le peuple d'Israël commence son voyage pour se rendre dans le pays promis, je voudrais attirer votre attention sur trois éléments contenus dans le texte lu. Tout d'abord, il est mentionné que les ossements de Joseph font partie du voyage. Joseph était l'un des premiers ancêtres du peuple d'Israël. Par un concours de circonstances assez extraordinaire, il fut premier ministre en Égypte et à un moment où tous les membres de sa famille avaient dû quitter leur vie nomade en Canaan à cause d'une famine pour trouver refuge en Égypte. Joseph, sur son lit de mort, a exprimé à ses enfants sa confiance en Dieu. Il leur a affirmé que celui viendrait à leur secours pour les conduire au pays de Canaan. Il a aussi demandé à ce que ses ossements y soient emportés au moment où cette espérance se réaliserait. Et évidemment, cette requête de Joseph s'est transmise de génération en génération. Et quelques 4 siècles plus tard, Moïse a honoré le souhait de son ancêtre. Cette démarche au sujet des ossements de Joseph est une preuve de plus de la fidélité de Dieu à ses promesses, et donc une raison de plus de mettre notre confiance en lui. Parfois, l'attente de la réalisation de ses promesses est longue, mais l'Éternel, un jour, accomplira tout ce qu'il a promis. Ensuite, nous pouvons constater que Dieu était bel et bien présent avec son peuple. Nous apprenons qu'il leur a prouvé sa présence en se manifestant à travers une colonne de nuée le jour et une colonne de feu la nuit. Pour savoir où aller, pour ne pas se perdre dans le désert, il suffisait au peuple de tout simplement suivre leur Dieu qui était visiblement présent avec eux. Il faut souligner que cette présence visible et extraordinaire de Dieu a duré pendant tout le séjour du peuple dans le désert. Une fois sur la terre promise, il n'y a plus eu de colonne de nuée ni de feu. Il ne faut pas conclure pour autant que Dieu n'était plus présent parmi son peuple, qu'il n'était plus leur guide. Non, Dieu est toujours présent avec son peuple, même si nous ne le voyons pas de nos propres yeux. À travers l'histoire, Dieu prouve sa présence de façon diverse et selon sa bonne volonté. Parfois, il accorde des signes visibles et extraordinaires de sa présence. Mais souvent, nous devons simplement nous appuyer sur sa promesse et marcher par la foi avec l'assurance qu'il demeure toujours avec son peuple. Enfin, il est intéressant de noter que Dieu, bien que présent pour guider son peuple, ne l'a pas conduit par le chemin le plus court pour retourner au pays de Canaan. Et le récit lu nous explique pourquoi. Oui, il existait en effet une route plus courte et bien tracée le long de la mer Méditerranée reliant le pays d'Égypte au pays de Canaan. Il s'agissait d'une route commerciale par laquelle passaient beaucoup de marchands. Cependant, il s'agissait aussi d'une route assez bien défendue par quelques garnisons militaires. Il faut comprendre que le peuple de Dieu est sorti d'Égypte sans armes, sans armée et sans expérience de combat. L'idée de passer par une telle route n'était donc pas du tout sensée. C'est pourquoi Dieu a décidé de conduire son peuple à travers le désert. Il désirait protéger son peuple du danger. Et il avait aussi d'autres projets pour lui. Dieu sait faire concourir toutes choses pour le bien de ses enfants, même si à première vue, ses voies paraissent parfois incompréhensibles. En bref, Dieu était présent avec son peuple pour le guider selon ses bons desseins, et ce Dieu est digne de notre confiance.
Merci Claude. La prochaine fois, nous apprendrons que malgré tout, et même dans ces lieux déserts, le peuple d'Israël a été confronté à des dangers militaires. Il faudra revenir écouter notre prochaine émission pour en savoir plus. En attendant, c'est le moment d'accueillir notre deuxième invité. Didier va approfondir quelques leçons à partir du texte lu pour nous aider dans notre propre marche quotidienne avec Dieu.
Merci Hélène et bonjour à tous. Je voudrais revenir sur le fait que Dieu n'a pas conduit le peuple d'Israël par le chemin le plus court. Et parfois, dans nos propres vies, nous pouvons nous demander pourquoi le Seigneur ne nous conduit pas plutôt par tel ou tel chemin. Vous pouvez vous trouver devant un choix ou une décision à prendre qui concerne votre éducation ou votre vie professionnelle. Vous pouvez penser que tel ou tel choix serait bien pour vous. Mais voilà que la porte se ferme et vous êtes obligé de vous tourner vers d'autres choix qui, à vos yeux, sont moins bien. Vous pouvez également vous trouver dans des circonstances bien éprouvantes et vous demander pourquoi le Seigneur vous fait passer par là. Il est normal, dans l'épreuve, de chercher une solution rapide et facile à ces problèmes, et nous pouvons nous attendre à ce que Dieu agisse de façon extraordinaire pour accorder une guérison, une délivrance, une provision miraculeuse. Cependant, il arrive souvent que le Seigneur n'agisse pas tel que nous le souhaiterions. Nous pouvons alors nous demander pourquoi. Comme dit le prophète Ésaïe, « Car vos pensées ne sont pas mes pensées, et vos voies ne sont pas mes voies, déclare l'Éternel. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies, et autant mes pensées sont élevées au-dessus des vôtres. » Pourquoi en est-il ainsi? Les desseins de Dieu pour notre vie visent surtout notre progrès et maturité spirituelle. Autrement dit, la sanctification ou la croissance vers la sainteté. Si Dieu ferme certaines portes pour en ouvrir d'autres, c'est peut-être parce qu'il voit de loin certains pièges qui mettront notre croissance spirituelle en danger. Si Dieu nous conduit sur des sentiers pénibles et douloureux, c'est également pour éprouver notre foi et favoriser notre maturité spirituelle. Citons l'apôtre Paul. Il a écrit ainsi à l'église de Rome : Nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment, de ceux qui ont été appelés conformément au plan divin. En effet, ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi destinés d'avance à devenir conformes à l'image de son Fils. Dieu nous aime. De ce fait, nous devons conclure que là où il nous conduit, c'est pour notre bien. Comme Paul le déclare, il fait concourir toutes choses à notre bien. Mais quel est le bien dont il est question? La réponse se trouve dans le verset suivant. Le grand dessein de Dieu est que nous devenions conformes à l'image de son Fils. Dieu agit dans notre vie pour nous aider à grandir et à ressembler à Jésus-Christ. Voici la volonté de Dieu, quel que soit le chemin sur lequel il nous conduit. Dieu était présent avec le peuple d'Israël pour le guider. De la même manière, il est présent par son esprit, avec tout véritable croyant chrétien. Il est présent avec nous, parce qu'il nous aime. Il est présent avec nous, pour nous conduire, et même si nous ne comprenons pas toujours pourquoi il nous fait passer par des échecs et des épreuves, nous avons cette assurance qu'il nous aime et que tout ce qu'il fait est pour notre bien et contribue à notre croissance dans la maturité en Christ.
Merci Didier pour ces leçons enrichissantes. Chers amis, nos invités seront de retour lors de notre prochaine émission pour poursuivre leurs réflexions sur le livre de l'Exode.
En attendant de vous retrouver, nous vous disons au revoir.
Au revoir et que Dieu vous bénisse.